du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Alice Milo.
Bonjour, la Terre vit à crédit. D'ici 50 ans, nous n'aurons plus ni pétrole, ni charbon, ni gaz à exploiter. Certains l'ont bien compris, comme le Costa Rica qui n'a presque plus besoin d'énergie fossile. En 2016, le petit pays d'Amérique du Sud a produit 98% de son électricité grâce aux énergies renouvelables, notamment hydrauliques. À titre de comparaison, en France, seulement 14% de l'énergie consommée provient des ressources vertes. Mais l'Union européenne prévoit que 20% de son énergie sera produite grâce à l'eau, au vent et au soleil d'ici 2020. Le soleil, justement, est pressenti comme la première source d'énergie pour ce nouvel ordre du monde, une ressource inépuisable et à peu près équitablement répartie sur notre planète. Alors, quels sont aujourd'hui les atouts et les limites de l'énergie solaire dans le monde ? Pour en parler avec nous, Jean-Louis Ball, président du CER, le syndicat des énergies renouvelables, et Charlotte Aubin-Calaïdjan, présidente de Greenwich Partners, une société d'investissement spécialisée dans le solaire en Afrique. Nous les entendrons en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, direction Taïwan, l'île État située au large de la Chine, grand comme la Belgique et qui compte 23 millions d'habitants. Parmi eux, près de 500 000 aborigènes, installés là depuis près de 3000 ans, bien avant l'arrivée des migrants venus de Chine continentale, qui forment aujourd'hui la majorité de la population taïwanaise. L'une de ces tribus autochtones a entrepris de devenir la première communauté de Taïwan à être autosuffisante en énergie renouvelable. C'est un reportage de Clément Robin.
Donc, monsieur s'appelle Chen Shede et il est donc en charge de l'association du développement de la communauté.
Eh bien, on est sur le toit du village en fait. Au loin, on voit la mer, l'océan, les montagnes qui se jettent dans la mer et puis tout ce petit village qui est autour de nous. Et juste devant nous, une vingtaine de panneaux solaires.
Là, oui, il y en a 20. Et en fait, sur le toit de l'église, il y en a 12.
Ça fait longtemps que vous avez installé ces panneaux solaires ?
Ça fait vraiment pas longtemps. Là, les panneaux solaires qu'on voit actuellement, ce sont les premiers installés par le village. Et ça fait juste un peu plus d'un mois.
C'est vraiment un projet qui est tout récent, alors, monsieur Chen.
En fait, ils ont vraiment commencé à parler de leur projet au mois de juillet. Et ils ont fait en sorte de faire savoir à tout le monde qu'ils avaient pour objectif de devenir la première communauté 100% énergie renouvelable dans le pays. En fait, ils ont été installés gratuitement pour la communauté, ces panneaux solaires. Mais si chaque habitant veut aussi installer des panneaux solaires sur leur toit, il faudra qu'ils payent.
Et alors, ces panneaux solaires, ils produisent quelle quantité d'énergie, d'électricité pour le village ?
Alors ici, sur le toit du centre communautaire, il s'agit de 4,6 kW. Et sur le toit de l'église, il s'agit de 3
kW.
Ce qui est produit dans les deux endroits, c'est suffisant pour l'utilisation de chaque lieu. Et en plus, ils auront même possibilité d'en garder, d'en avoir un peu plus, qu'ils comptent revendre à l'entreprise nationale en charge de l'électricité.
Je
C'est en 2015, après de longues discussions entre les habitants du village, que la tribu Taromac décide de se fixer un objectif, devenir la première communauté taïwanaise alimentée à 100% en énergie renouvelable. Pour mener à bien ce projet ambitieux, les aborigènes font appel à l'Alliance pour la protection environnementale de Taïwan, qui décide de les soutenir financièrement. Et cette association écologiste, la première de l'île, compte bien faire un exemple de la communauté Taromac pour tout le pays. Car aujourd'hui, l'essentiel de l'électricité produite à Taïwan provient d'énergies fossiles, notamment du charbon et du nucléaire, qui pèsent près d'un cinquième de la production énergétique. Mais l'île est située sur une zone hautement sismique, ce qui fait craindre à une partie de la population une catastrophe comme Fukushima au Japon. Et les aborigènes sont d'autant plus opposés à l'atome qu'une partie des déchets nucléaires est pour le moment stockée près d'une autre communauté autochtone sur une petite île au large de Taidong, la ville la plus proche du village Taromac.
Alors Monsieur Chen, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de la genèse de ce projet de devenir 100% énergie renouvelable?
À Taïwan, il y a trois façons de produire de l'électricité. Il y a d'abord les centres hydroélectriques, donc on utilise la force de l'eau, et puis il y a les centrales à charbon et il y a les centrales nucléaires, les centrales à charbon étant les plus nombreuses. Alors par rapport aux centres hydroélectriques, étant donné les changements climatiques, il y a parfois de moins en moins d'eau et du coup ce n'est pas spécialement un secteur qui est en voie de développement à Taïwan. Actuellement, il y a 4 centrales nucléaires à Taïwan et le gouvernement a décidé que d'ici à 2025, aucune d'entre elles ne sera utilisée. Alors, du coup, il reste quoi ? Il reste l'énergie éolienne, il reste l'énergie solaire, mais si l'eau est de moins en moins nombreuse et si on ne veut pas de nucléaire et qu'on ne veut pas polluer avec le charbon, les choix se restreignent de plus en plus. Et dans leur tribu, le soleil est très présent. Il y a peu de jours de pluie dans l'année. Ils peuvent vraiment compter sur cette énergie-là. Et donc, quand l'Alliance pour la protection environnementale de Taïwan a vu que les habitants de Taromac étaient très unis autour de ces sujets, du coup, ils se sont dit que c'était une bonne occasion d'ensemble mettre en avant les énergies vertes. Donc ils ont voulu commencer par les endroits publics pour montrer aux habitants que c'était possible. Au moment des cérémonies traditionnelles importantes du mois de juillet, ils ont besoin d'électricité, donc des panneaux solaires qu'on pouvait bouger ont été installés sur la place des cérémonies traditionnelles pour cet événement spécifique. Donc il y a une équipe qui est venue installer et s'occuper des panneaux solaires pendant un mois à peu près. Et donc toute l'électricité qui a été utilisée lors de ces fêtes traditionnelles était produite par les panneaux solaires.
Cette quête d'autonomie énergétique est aussi née d'un conflit avec les autorités qui remonte à plus de 75 ans. En 1941, l'île est alors contrôlée par les Japonais qui décident de construire un barrage hydroélectrique sur la rivière qui longe le village. La population locale y est alors fermement opposée, mais forcée, malgré tout, à participer à sa construction. Et aujourd'hui, les Taromac veulent en quelque sorte prendre leur revanche, soit en exploitant ce barrage qu'ils considèrent sur leur terre, soit en obtenant sa destruction. Nous rencontrons Tsegao, un militant écologiste de la communauté qui nous propose de nous emmener jusqu'au barrage à une quinzaine de minutes au-dessus de leur village.
Là, on est en train de voir qu'il y a une retenue d'eau et elle a une porte, une immense porte qui est ouverte. et qui permet à des tonnes d'eau de passer devant nous. Et donc toute cette eau qu'on voit défiler, en temps normal, eh bien, elle ne passe pas. La porte est entièrement fermée, donc autant vous dire que la rivière, il y a juste un petit filet d'eau qui passe, quoi.
Et sa construction, elle remonte à quand en fait? Qui est-ce qui a construit ce barrage?
C'est les Japonais qui l'ont construit pendant la période japonaise en 1941. Et c'était pour produire de l'électricité pour une base militaire aérienne qui était à Taïdong.
Quelle était la réaction de la tribu Taromak à l'époque de la construction du barrage?
De manière générale, à partir du moment où les Japonais sont arrivés, les habitants étaient un peu forcés d'accepter. Et la construction de ce barrage s'est faite majoritairement à l'aide des habitants.
Aujourd'hui, vous êtes opposé à ce barrage qui est construit juste à côté de votre village?
À l'origine, ils étaient contre le barrage. Ils s'y sont opposés pour la raison que le barrage récupère de l'eau à une source dans une rivière située en amont. Et du coup, les poissons, les crevettes ne peuvent pas vivre parce que l'eau arrive dans le barrage. Mais en fait, quand ils sont allés rencontrer les gens qui s'occupent du barrage et qu'ils ont découvert que la compagnie Thai Power n'avait en fait pas envie de continuer à gérer ce barrage, ils se sont dit, mais alors du coup, il faudrait qu'on nous laisse la gestion du barrage, comme ça nous, on se débrouille et on fabrique de l'électricité pour notre tribu.
Il produit quelle quantité d'électricité pour combien d'habitants, à peu près?
Quand le barrage est au maximum de sa force, il produit 800 kW. Donc il pourrait produire de l'électricité pour à peu près la moitié de la tribu, si on considère les besoins de la tribu. Donc comme la tribu fait un peu plus de 1000 personnes, ça ferait peut-être une production d'électricité pour à peu près 600 personnes.
Alors vous concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez en faire? Vous voudriez exploiter l'électricité qui ressort de ce barrage?
Ce qu'ils aimeraient bien faire, c'est modifier un peu l'apparence du barrage, parce qu'en fait, ils ont augmenté récemment le niveau du barrage, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils n'ouvrent pas la porte, il n'y a vraiment aucune goutte d'eau quasiment qui passe. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vie dans la rivière, parce que quand l'eau passait, il pouvait y avoir des poissons, des crevettes, et donc aujourd'hui, il n'y a rien. Eux, s'ils peuvent récupérer l'usage de ce barrage, ce qu'ils veulent faire, c'est déjà limiter sa hauteur de façon à faire en sorte que l'eau de la rivière puisse couler naturellement et ensuite bien sûr utiliser l'eau qui est utilisée par le barrage pour faire des énergies vertes.
Se sont largement améliorées avec les autorités taïwanaises, mais pendant des centaines d'années, les rapports ont été plus que compliqués avec les premiers colons autour du XVIIe siècle, puis les Japonais qui ont contrôlé l'île pendant la première moitié du XXe siècle, et jusqu'à l'arrivée des troupes nationalistes chinoises qui se sont réfugiées à Taïwan à la fin des années 40, chassées par les communistes de Mao. À l'époque, beaucoup de tribus aborigènes vivaient isolées dans les montagnes et ont été plus ou moins forcées par les autorités à descendre vivre dans les plaines. C'est d'ailleurs le cas de la tribu Taromak, et en tant que premiers habitants de l'île, beaucoup d'aborigènes voudraient aujourd'hui retrouver leur autonomie d'avant les colonisations chinoises et japonaises.
Oui. C'est la maison du chef.
Ah, d'accord.
Du chef de tribu.
Ventilateur, c'est chaud. C'est bien décoré là. Les murs sont recouverts de photos, de tapis traditionnels, d'éventails, de dessins, de sculptures, de chapeaux traditionnels du chef de la tribu. Et ça, je sais pas ce que c'est.
C'est du millet.
Ah, c'est du millet.
C'est une plante très importante
pour cette tribu. Oui, qui ont la fête du millet dont on parlait un peu plus tôt, qui se tient sur. Sur la place,
la place des
fêtes, quoi, en fait. La place des fêtes du village. Ah, le chef de la tribu nous invite à nous asseoir. C'est votre femme qui vient d'arriver, là? C'est vous deux qu'on voit sur la photo derrière, c'est ça?
Il dit on est très vieux, plus de 70 ans.
Ah, aujourd'hui? Et là, vous aviez quel âge?
Là, c'était à peu près à 50-60 ans.
Vous avez des beaux vêtements traditionnels là, sur cette photo.
Là-bas aussi, beaucoup de photos où ils sont jeunes.
C'est important pour votre tribu, j'imagine, les problématiques environnementales.
C'est important pour eux parce qu'en fait l'électricité elle leur arrive de l'extérieur et elle n'est pas toujours fabriquée dans de bonnes conditions. Donc maintenant qu'ils savent qu'il y a cette énergie solaire et qu'ils peuvent l'utiliser, c'est très positif et ça permet de fabriquer soi-même une bonne électricité. Donc s'ils peuvent développer l'énergie solaire et être en accord avec l'environnement, alors c'est très bien.
J'imagine que c'est aussi un moyen d'avoir une autonomie vis-à-vis des autorités taïwanaises.
Il y a quand même une marge de liberté à Taïwan actuellement, mais ce qu'ils espèrent surtout à travers cette production d'électricité, c'est de pouvoir être plus libre de produire l'électricité qu'ils veulent. Actuellement, donc, s'ils veulent faire des échanges avec Taipower, la compagnie d'électricité, c'est un peu compliqué. Et s'ils leur achètent de l'électricité, ils ne peuvent pas choisir d'où elle vient et ils peuvent se retrouver à acheter de l'électricité qui a été produite avec le nucléaire. Donc, pour eux, être autonome, c'est aussi une façon de ne pas utiliser cette électricité produite d'une façon avec laquelle ils ne sont pas d'accord.
C'est quoi les relations historiques entre la tribu Taromac et les autorités taïwanaises?
Donc les gouvernements successifs, ils les obligent à porter des noms spécifiques. Eux, avant, ils ne s'en inquiétaient pas autant. Et on n'attachait jamais d'importance à eux, à ce qu'ils pensaient. Maintenant, ça a changé un peu. Mais déjà, à l'époque des Japonais, on les avait obligés à faire le service militaire, à aller se battre. Maintenant, ils sont devenus des peuples assez faibles. Beaucoup de leurs traditions ont été soit interdites, comme la chasse, soit mises de côté. Autrefois, ici, c'était que des terres aborigènes, ils vivaient tous ensemble. Et après, avec l'arrivée des autorités, il a fallu diviser les territoires, assigner, les propriétés ont été assignées. Maintenant, ils doivent faire attention où est-ce qu'ils ne peuvent pas planter leurs légumes ou faire leurs élevages où ils veulent, alors qu'autrefois, ils avaient tous ces terrains et ils pouvaient vivre au niveau de l'alimentation, ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Après, on leur a donné un peu de terre, mais ce n'est toujours pas assez. Leurs enfants, ils n'ont aucune terre où ils peuvent continuer à vivre ici, aujourd'hui.
Ah, on nous sert une boisson locale.
C'est de l'alcool de millet.
D'accord.
Inévitable chez les aborigènes de l'Est. C'est sans pesticides, herbicides, etc. C'est de l'alcool de millet qu'ils viennent de fabriquer.
On peut goûter?
Allez-y. Goûtez.
Ah, c'est pas très fort. En tout cas, c'est vraiment très bon. Han.
Boire ensemble, buvons ensemble.
Okay.
C'était un reportage à Taïwan de Clément Robin. Restez avec nous, C'est pas du vent, on continue juste après Flash. On parle des énergies renouvelables et notamment de l'énergie solaire, de son potentiel et de ses limites avec nos invités. C'est dans 3 petites minutes, à tout de suite.
Oui, tanti.
Écho d'ici, écho d'ici.